ce qu'il faut, Anne.
Anne, c'est bon ? C'est vrai ?
Bien. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue à l'espace Monde Source. Alors, rapidement, un petit mot d'accueil avant de passer la parole à madame Belli, qui représente le conseil régional Poitou-Charentes. Donc, un petit mot sur le travail que nous allons faire aujourd'hui autour des questions de mémoire et de mémoires ouvrières plus particulièrement. Vous le savez certainement, l'espace Mendès France est, en tant que centre de culture scientifique, amené à explorer des thèmes où science et société, science et citoyenneté se rencontrent régulièrement. Alors dans cette salle, vous avez, depuis de nombreuses années maintenant, vous avez eu ici un certain nombre de journées d'études sur des thèmes qui en apparence peuvent apparaître hétéroclites et qui en fait se rejoignent tous par cette volonté de profiter, je veux dire ce terme dans ce sens-là, de profiter des échanges qui ont lieu ici, qui sont souvent parfois, pour ces journées d'études, des sujets un peu pointus et des échanges un peu savants, pour essayer ensuite de les remouliner et les mettre à disposition de nos concitoyens. Donc vous voyez qu'à ce titre-là, l'espace Mendès France joue ce double rôle d'exploration de thèmes qui sont des thèmes pas toujours usités. La question de la mémoire ouvrière et des mémoires ouvrières, de la mémoire en général, elle est en train d'être revisitée. Le travail qui a été fait ces derniers temps par le service de l'inventaire est à ce titre-là singulier, original au niveau national. Et donc l'espace Mendès France se doit à un moment ou à un autre de pouvoir transformer ces éléments d'information qui peuvent apparaître réservés à une élite, à un certain nombre de profils professionnels ou amateurs éclairés, sans que nos concitoyens soient impliqués. Alors, c'est la raison pour laquelle on a souhaité cette année faire une expérience et ensuite voir dans quelles conditions pour les prochaines années sur d'autres thèmes. On a parlé des industries agroalimentaires, on a parlé du papier, on est en train de parler d'autres thèmes qui sont spécifiques au Poitou-Charentes, mais qui en fait derrière permettent de monter toute une série d'opérations. Donc pour mémoire, cette année, à l'occasion de la fête de la science, nous avons profité de ce travail pour aller à la visite, à la rencontre lors de visites d'entreprises du monde économique, industriel, mais également de pouvoir préparer des éléments de réflexion à travers une conférence. Donc voilà, donc l'idée c'est que ce rôle de médiation puisse aussi investir la dimension patrimoniale qui est la mémoire régionale liée au travail. Je vous rappelle que, puisque le direct président du conseil scientifique du festival Filmer le travail est ici, Jean-Paul Géhin, donc sociologue à l'Université de Poitiers, va vous dire qu'effectivement tout ça s'interconnecte et que travailler sur la mémoire, les mémoires ouvrières et travailler sur un festival comme Filmer le travail, à un moment ou à un autre, tout ça se rejoint. Donc tout ça fait partie d'un tout. Donc je disais tout à l'heure, dans cette salle, on lit régulièrement des journées d'études qui peuvent apparaître comme hétéroclites. Il y a très peu de temps, il y a eu des choses sur les nanotechnologies. On a parlé de laïcité, on a parlé d'immigration. Donc on voit que tout ça, en fait, n'a qu'un seul objectif, c'est pouvoir transformer les savoirs et les éléments de connaissance que vous êtes amenés à discuter entre vous vers nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle je fais bien attention lors des débats d'aujourd'hui de bien dire qui vous êtes, d'où vous venez avant d'intervenir, parce que lors des reprises d'informations, ça nous permettra également de pouvoir situer tout ça et donc de livrer ça à nos concitoyens. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée de travail. Si vous ne l'avez pas eu, il y a un numéro spécial de l'actualité. Le problème, c'est qu'il est épuisé. Voilà. Donc on l'a tiré pourtant à 8000 exemplaires. On en a fait un retirage avec la région de 3500 exemplaires. Il n'y en a plus. Donc ça prouve que c'est une thématique qui est non seulement dans l'air du temps, mais qui correspond à un vrai besoin. Donc il n'y a plus d'actualité. Alors vous irez en ligne sur le site internet de l'Espace Mendès France, parce qu'il y a tous les articles. Madame Belli, merci d'être là. Je vous passe la parole.
Alors bonjour à... Alors ça fonctionne. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Alors je voudrais d'abord excuser Ségolène Royal, la présidente, hein, qui aurait souhaité être parmi vous ce matin, mais qui est retenue ailleurs. Et Paul Fromonteil, vous avez son nom devant moi, qui ne pouvait pas être là aussi. En tout cas, moi je suis ravie d'être parmi vous. Merci de votre présence ce matin, ici à l'espace Mendès France. Merci de votre participation à cette journée d'études ouverte à tous sur les mémoires et expériences du travail. Alors, cette journée d'études est organisée dans le cadre de l'opération d'inventaire des mémoires ouvrières en Poitou-Charentes. Cette opération est issue d'un travail conduit par l'inventaire général jusqu'à l'année 2007 sur les traces du patrimoine industriel de la région. Travail qui a permis de découvrir ce patrimoine méconnu et de le faire partager. À la suite du colloque organisé en 2007 à Poitiers et à Châtellerault, les élus de la région ont en effet décidé de restituer à ce patrimoine toute sa dimension humaine en le complétant par l'inventaire des mémoires ouvrières. Alors, cette recherche est menée par le service de l'inventaire général du patrimoine culturel de la région Poitou-Charentes en appui sur un comité scientifique composé d'experts en histoire, en géographie, en ethnologie, en sociologie, anthropologie et économie. L'objectif de cette recherche est de valoriser cette mémoire et d'aider à sa transmission. Alors ceci, dans un souci constant de créer des liens entre le passé et le présent, afin de mieux comprendre le monde actuel du travail et de stimuler la réflexion sur l'avenir. L'opération qui concerne l'ensemble du territoire régional fait l'objet cette année d'une expérimentation sur Châtellerault autour de la manufacture. Les années suivantes verront d'autres problématiques soulevées autour du papier Angoulême, des industries agroalimentaires dans les Deux-Sèvres et des industries des ports en Charente-Maritime. Alors, la médiation de l'étude a été confiée à l'Espace Mendès France, centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes, qui a une grande expérience et compétence dans ce domaine. Cette journée, placée sous le thème des mémoires et des expériences de travail, est le fruit de cette coopération entre la région et l'Espace Mendès France. Merci donc à Didier Moreau et à toute l'équipe de l'Espace Mendès France pour l'organisation de cette rencontre. Et un grand merci aussi à François Vatin, qui a pris en charge la responsabilité scientifique de cette journée, et bien sûr à l'ensemble des intervenants qui vont permettre de nourrir la réflexion régionale à partir de démarches qui ont été déjà menées ailleurs. Alors, je vais à mon tour vous souhaiter une bonne journée de travail, une bonne journée de réflexion, et je vous passe la parole, ou je vous repasse la parole, monsieur Didier Moreau, je ne sais pas.
Juste un mot pour rappeler à toutes et à tous que le travail de l'Espace Mendès France, quelle qu'en soit la thématique, se fait toujours et régulièrement autour du monde scientifique et des scientifiques qui composent les communautés thématiques. Donc François Vatin, à ce titre, a accepté de porter la discussion à l'intérieur de l'Espace Mendès France, mais également de pouvoir faire le lien entre le travail qui est fait au sein du service de l'inventaire au sein de la région Poitou-Charentes et la communauté d'historiens qui s'intéresse à cette question. Et je voudrais juste, pour finir, avant de laisser la parole à François, vous citer une petite anecdote, ce que je disais rapidement avant de commencer. Moi, j'étais en Louisiane depuis 4-5 jours et je me rends compte à quel point cette notion de mémoire est relative, puisqu'ils sont en train de célébrer l'anniversaire de la plus vieille église d'Amérique du Nord, et elle date de 1728. Pour dire que tout ça est bien relatif et que la question de la mémoire et que la question de l'appartenance et de l'identité est plus que jamais vivace en Amérique du Nord et comme en Europe. Donc François, je te laisse la parole.
Très, très rapidement, parce que nous avons déjà pris un petit peu de retard et je pense qu'on va essayer de rentrer le plus rapidement possible dans le vif du sujet. Non, je voulais vraiment remercier très sincèrement l'Espace Pierre Mendès France, Didier Moreau, son directeur, Anne Bonnefoy, qu'on n'a pas encore cité, la cheville ouvrière, il n'y a pas que les mémoires ouvrières, il y a aussi les chevilles ouvrières, la cheville ouvrière de cette journée. Et puis, remercier l'Espace Pierre Mendès France, effectivement, pour concevoir cette journée, qui est une journée qui s'inscrit dans cet inventaire du patrimoine industriel et de la mémoire ouvrière en Poitou-Charentes, d'avoir souhaité faire appel à quelqu'un d'extérieur à la région pour animer ce débat, concevoir cette journée. Et de mon côté aussi, j'ai essayé de faire venir des gens extérieurs à la région, extérieurs aussi aux thématiques industrielles présentes dans la région. Et ça, je trouve ça tout à fait intéressant parce que, en général, effectivement, quand on parle de patrimoine, il y a un risque, bien sûr, de se refermer un peu sur l'intérieur. Là, au contraire, on a essayé d'ouvrir ça de façon à inscrire la réflexion sur les traditions de travail dans la région dans une réflexion plus globale sur la mémoire du travail, la notion d'expérience de travail. J'en dis pas plus maintenant puisque je vais essayer de présenter cette thématique dans l'exposé d'introduction. Un petit mot simplement pour l'organisation de cette journée. On risque d'avoir une petite difficulté puisque nous avons une de nos intervenantes qui est bloquée actuellement à la gare Montparnasse. Alors voilà, le travail, c'est ça aussi. C'est les difficultés que l'on peut rencontrer aujourd'hui sur le réseau ferroviaire. Donc on va voir, on est en ligne avec elle pour savoir à quel moment elle arrive et si on est amené à intervertir. Donc c'est le Gwenaël Roux qui devait intervenir avec Emmanuel Dupuis et Patrick Feltzer qui sont là sur la mémoire de Renaud Billancourt. Si elle peut venir, on va déplacer ça dans la journée de façon à rendre possible sa participation à ce débat. Si elle ne peut pas venir, eh bien, donc Emmanuel Dupuis et Patrick Feltzer interviendront quand même dans l'ordre du programme. Donc on va voir ça dans les minutes qui viennent. Dans une heure, on saura. Voilà, je ne sais pas, Anne, s'il y a d'autres points techniques à...
que ce soit un ami de François Vatin qui le présente, mais bon, c'est moi aussi, je suis une amie de François, mais donc je vais le faire. Mais j'aurais peur de non pas de me tromper, mais je ne peux pas donner toute la liste, mais elle est dans la bibliographie de tes productions, François. Donc d'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté tout de suite, comme le disait madame, d'être responsable scientifique de cette journée. J'ai pensé que tu étais la personne idoine pour faire cela. Je sais que tu as beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Tu es déjà venu à Poitiers dans le cadre de nos conférences qu'on organise avec l'école doctorale Sciences de l'Homme en partenariat avec la Société française pour l'histoire des sciences de l'Homme. Et il me semblait absolument évident que tu étais la personne, en effet, idoine pour organiser cette journée. Et je remercie infiniment nos amis venus de loin, hein, qui ont traversé toute la France, qui sont arrivés hier soir, pour nous donner cette journée aujourd'hui, faire part de leur réflexion. Et aussi, bien entendu, la région Poitou-Charentes et nos amis de l'inventaire général avec lesquels nous travaillons depuis le début de l'année. Donc, François, tu vas nous parler du travail, activités, cadres sociaux. Et tu es professeur de sociologie à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. Et je te remercie de ton intervention. Donc, tu as trois quarts d'heure. On a du retard, mais ce n'est pas grave. Et on a du plaisir à t'écouter. Merci beaucoup.
Merci. Je ne vais pas utiliser ces trois quarts d'heure, mais je vais essayer de... Non, non. Mais de toute façon, je donnerai tout à l'heure la parole à Yves Schwartz, qui a gentiment accepté de faire mon répondant. Donc, je vais essayer de tracer quelques axes pour introduire cette journée, en repartant donc cette idée de mémoire, hein, mémoire du travail, mémoire ouvrière, ça évoque a priori l'idée de geste ouvrière, d'une mémoire sociale, hein, c'est souvent comme ça que les choses sont présentées, celle d'un combat des travailleurs ou de la classe ouvrière pour la conquête de ses droits sociaux et de sa dignité. Il ne s'agit pas ici de discuter de la pertinence de ce récit, qui n'est pas sans fondement, même s'il a parfois été un peu mythifié, hein, dans une histoire héroïque. L'époque moderne a moins perdu qu'on ne le croit le sens de l'épopée. On a des épopées, on a une épopée de la mémoire ouvrière. Je pense peut-être qu'au cours de la journée, on aura l'occasion d'y revenir. Ce que je veux simplement souligner dans la difficulté que je veux pointer quand on parle de mémoire du travail, le problème porte sur le terme même de travail. Dans l'interprétation précédemment donnée, liée de cette épopée ouvrière, il faudrait écrire « travail » avec un T majuscule. Dans cette figure de style, le « travail » avec un T majuscule évoque la classe des travailleurs, la classe ouvrière. Et le travail n'est alors plus pensé dans son sens premier d'acte productif, mais comme l'incarnation d'une fraction de la société, fraction de la société marquée par une certaine condition sociale, celle de travailleur. Il faudrait essayer de saisir ce que l'on entend par là. Un détour par l'anglais permet, je pense, d'éclairer un peu ce point, puisque dans la langue anglaise, on distingue bien deux termes, work, l'activité de travail, et labor, le travail comme condition sociale. Et quand on parle du travail avec un grand T, c'est du labor qu'on parle, et non pas du work. Or, si la langue française confond ces deux notions, qui sont mieux distinguées par l'anglais, je pense qu'il faut savoir les distinguer, y compris pour penser leurs liens intimes, qu'il est important d'arriver à distinguer ces deux dimensions du travail. Et pour ça, rien de mieux, à mon sens, qu'un détour par la pensée de Marx, auquel je vais vous inviter dans un premier temps. La pensée de Marx, qui a longtemps fourni la représentation de référence du travail dans la société contemporaine. Alors, on lit moins Marx aujourd'hui qu'on ne l'a fait, on en parle moins, on en discute moins, mais c'est peut-être aussi l'occasion de le lire mieux, de le penser comme un auteur comme les autres, avec l'apport fondamental qui continue à irriguer finalement notre pensée là-dessus. Alors, c'est ce que je vous propose dans un premier temps, revenir sur Marx, le fétichisme de la marchandise, et dans une espèce de jeu de référence, le fétichisme du travail, si on peut dire les choses ainsi. Et c'est ce qui me permettra, dans un second temps, de revenir au travail vivant et de poser la question des risques de la mémoire. Donc voilà les deux temps de mon exposé. Marx, le fétichisme de la marchandise et du travail, le retour au travail vivant, les risques de la mémoire et une conclusion qui nous renvoie au programme de la journée. Alors, dans la représentation commune, qui a été donc remarquablement instruite en son temps par Karl Marx, cette condition sociale qui marque l'état du travail avec un grand T, l'état, la classe des travailleurs, est celle du salariat. Le salariat, c'est-à-dire l'assujettissement au capital, qu'il faut donc aussi écrire avec une majuscule. Travail, capital, ces deux majuscules qui marquent très largement les débats du XIXe siècle. Le capital, c'est l'incarnation de l'argent face au travail. Le travail, pensez toujours à des majuscules, le travail, ce sont les travailleurs, ou selon l'expression romaine qui a cours au XIXe siècle, les prolétaires, ceux qui ne disposent pas de capital et n'ont donc, selon la formule de Marx, rien d'autre à vendre que leur force de travail. Celui qui dispose du capital, l'homme aux écus, va acheter cette force de travail et la mettre à profit. Pour Marx, on le sait, toute la valeur vient du travail. Le capital lui-même n'est que du travail, mais du travail mort, ossifié. Et selon la vieille expression juridique médiévale, qu'il reprend de façon décalée, le mort saisit le vif, le travail mort saisit le travail vivant, le capital assujettit le travailleur. Cette conception de Marx est largement inspirée par la pensée sociale française des années 1830-1840. Vous savez, Marx arrive à Paris au début des années 1840, jeune philosophe libéral allemand, et s'imprègne de la pensée sociale française de l'époque. Elle vise à redonner toute sa place à la vie, au travail vivant, au travail en acte, contre le fétichisme de la marchandise. C'est une expression que Marx utilisera dans le Capital en 1867. Qu'est-ce que c'est que le fétichisme de la marchandise, hein ? C'est un célèbre passage du Capital qui peut donner lieu à des débats d'interprétation, une exégèse compliquée. Mais en quelques mots, c'est cette représentation imaginaire du monde qui est construite par l'économie politique. Marx va prendre le discours de l'économie politique et la critiquer, en faire la critique. Le sous-titre du Capital, c'est « Critique de l'économie politique ». Représentation imaginaire du monde qui laisserait à croire que le capital pourrait se reproduire par son dynamisme interne. Que l'argent, selon une formule de Marx, pourrait faire tout seul des petits, qu'il serait gros de valeur. Et à l'inverse, Marx veut montrer, en suivant le fondateur même de l'économie politique, Adam Smith, qu'à l'origine de toute richesse, il y a le travail. Le travail, nous dit Smith, c'est le prix, le premier prix, le prix payé pour l'obtention de tout bien. Marx, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'inspire de la pensée sociale française de l'époque, des années 1830-1840, pensée économique et sociale qui critique l'économie politique anglaise, qui critique ce qu'on appelle à l'époque l'économie manchestérienne, celle de Manchester, incarnée notamment par David Ricardo. Cette critique, elle prend son point de départ chez un auteur européen. En fait, la pensée était beaucoup plus européenne, d'une certaine manière, à l'époque, qu'elle n'est aujourd'hui. Jean-Charles Simon de Sismondi, italien, suisse, français, très anglicisé aussi, Sismondi qui avait publié en 1819 les nouveaux principes d'économie politique. Les choses disaient bien, il s'agissait de concevoir une nouvelle façon de penser l'économie politique. Autre auteur auquel je me suis beaucoup intéressé, qui est une source importante de Marx, assez largement ignorée, c'est Eugène Buret. Eugène Buret, qui est l'auteur d'un des premières enquêtes sur la classe ouvrière dans les années 1840. Et dans toute cette pensée sociale française, il y a l'idée que l'économie manchestérienne oublie l'homme. Hein, oublie l'homme dans... je dirais, une représentation initiée par Ricardo, dans laquelle l'homme, finalement, ne serait qu'un moyen, qu'un facteur au service du capital. Autrement dit, le capitalisme aurait initié une nouvelle religion, une nouvelle forme d'adoration du veau d'or. L'argent serait érigé en un nouveau dieu, doté d'une puissance magique, et l'homme soumis à cette puissance. L'homme au travail serait oublié, projeté dans les ténèbres par la lumière factice de ce dieu fétiche. On a une formule d'un des auteurs représentatifs de cette époque, Joseph Droz. Joseph Droz, personnage fort oublié, mais dont on se souvient qu'il fut le parrain d'un autre auteur terrible de cette époque, Pierre-Joseph Proudhon. Quand Pierre-Joseph Proudhon dispose d'un prix de l'Académie de Besançon pour venir faire des études à Paris, il a comme parrain à la pension Suard Joseph Droz, philosophe, moraliste et économiste français. Et dans une formule qui n'est d'ailleurs pas la formule de Joseph Droz, mais je vous cite celle qui a été reprise, qui est citée par de nombreux auteurs, qui fait date, hein, Joseph Droz aurait dit « Ali Ricardo, on croirait que les hommes sont faits pour les produits et non les produits pour les hommes. » Formule de Joseph Droz, encore une fois, ce n'est pas la formule exacte, mais c'est celle qui est reprise, répétée par des quantités d'auteurs durant cette période-là. Et qui exprime bien cette inquiétude face à ce nouveau monde économique qui émerge à cette époque-là et qui n'est pas, je dirais, sans évoquer les débats qu'on peut trouver aujourd'hui. On pourrait retrouver dans la littérature récente à peu près des formules similaires. Ces penseurs sociaux voulaient dénoncer le cynisme de l'économie politique anglaise, cynisme qui consistait à faire de l'homme un simple moyen au service du capital. C'est là que je reviens à Marx, car Marx retourne l'argument. Que nous dit Marx? Et c'est très amusant parce que c'est la réaction qu'a immédiatement Marx en 1840 quand il lit Buret. C'est par Buret qu'il découvre Ricardo. Il n'a pas lu Ricardo, en fait. Toutes les références dans les premiers travaux de Marx, en 1844, où il cite Ricardo, en fait, toutes ces citations de Ricardo sont reprises à Buret. Et pourtant, tout de suite, Marx donne raison à Ricardo contre Buret. Pourquoi? Eh bien, nous dit Marx, en fait, ce n'est pas l'économie politique qui est cynique, c'est la société elle-même. Et donc, les penseurs les plus cyniques, les penseurs apparemment les plus cyniques, sont ceux qui seraient le plus proches des réalités. D'où son admiration pour Ricardo, le plus cynique des économistes. C'est Ricardo qui a pensé le travail comme une marchandise, un objet soumis à la domination du capital. C'est bien là, nous dit Marx, le statut du travail dans la société capitaliste. Alors, je suis longuement revenu sur cette histoire classique de la genèse de la pensée de Marx, car elle me permet de poser mon problème. Il y a comme un paradoxe, en effet, dans la démarche de Marx. Celui-ci valorise le travail vivant pour mieux montrer comment il est chosifié dans la société capitaliste. Mais en fait, Marx ne réduit jamais le travail vivant à sa forme chosifiée. Je vous renvoie ici un des premiers chapitres du Capital où Marx s'intéresse au travail indépendamment de la forme qu'il revêt dans la société capitaliste. Et il nous dit, dans une formule bien connue, le travail est d'abord un procès qui se passe entre l'homme et la nature, un procès dans lequel l'homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre action. Il se présente face à la matière naturelle comme une puissance naturelle lui-même. Donc une insistance sur cette dimension créatrice du travail, cette dimension naturelle du travail dans la relation intime de l'homme à la nature. Cette définition du travail comme procès, comme une activité vivante, qui vise justement, hein, Marx développe ce point, avant de développer l'exploitation capitaliste du travail, justement pour bien souligner que le travail par lui-même n'est pas réductible à la forme qu'il peut revêtir dans l'économie politique telle qu'elle décrit la société capitaliste. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Je veux simplement insister ici sur le fait que le fétichisme guette toute pensée et que celle de Marx n'a pas échappé à des interprétations fétichisantes. Le travail avec une majuscule, que j'évoquais tout à l'heure, peut donc aussi être fétichisé. Dans la façon dont on débat autour de cette question, on ne sait souvent plus ce que ce terme recouvre, si ça recouvre la puissance productive, si ça recouvre la condition salariale, ou si finalement les deux sont équivalents, comme si le statut de salarié avait la propriété miraculeuse de produire de la valeur, de même que Marx a dénoncé cette idée que le capital en soi aurait la propriété miraculeuse de produire de la valeur. Et c'est ce qui m'amène maintenant, dans le second temps de mon exposé, à revenir à cette question du travail vivant et à poser à partir de là le problème des risques de la mémoire. J'ai publié récemment, il y a à peu près un an, un petit ouvrage sur ce thème, le travail et ses valeurs, que vous verrez sur la table ici, voilà, à disposition. On peut en faire circuler un exemplaire, d'ailleurs, je vais en avoir un, si vous voulez. Dont l'objectif était justement de dénoncer cette conception réifiée, fétichisée du travail comme valeur. J'étais particulièrement sensible à cela parce que j'avais eu l'occasion de m'intéresser à une catégorie, une autre catégorie qui porte le même nom de travail et qui paraît très loin des débats sociaux. C'est ce que les physiciens, les mécaniciens appellent le travail, le produit d'une force par le déplacement de son point d'application. Cette théorie du travail mécanique qui apparaît au début du XIXe siècle, au moment même de la révolution industrielle, et qui est fondée sur une analogie entre l'activité des machines et celle des hommes. Ce n'est pas par hasard si les mécaniciens ont appelé ce terme le travail, c'est bien par analogie avec le travail des hommes. Et dans cette conception fétichisée du travail comme valeur, au sens d'une conception substantivée d'une valeur inscrite dans le travail, on retrouve de fortes analogies avec ce modèle mécanique. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans cette représentation, produire consisterait à additionner des quantités de travail, que l'on pense souvent comme des unités chronométriques, des temps de travail qu'il suffirait d'additionner pour obtenir une production. Vous le savez tous, la conception taylorienne de l'organisation a illustré cette représentation. Je veux dire, le modèle développé à partir de Taylor par son disciple Gilles Bresse, le Terblig, c'est exactement cette unité chronométrique de temps de travail que l'on pourrait additionner dans l'équilibrage des chaînes. L'équivalent, le point Bedeau, fonctionne sur le même principe. Certains disciples de Marx ont pu se complaire dans cette représentation, comme si finalement Taylor avait réalisé dans l'usine la théorie marxienne de la valeur travail, cette représentation d'une conception additive de la production qui serait réductible à une sommation de temps de travail. Et ce qui est frappant, c'est que cette conception est encore prégnante dans les esprits. J'ai toujours été frappé par le fait que les ergonomes parlaient de charge mentale, comme s'il n'était pas possible de concevoir les contraintes du travail intellectuel autrement que sous la figure mécanique de la charge. La charge renvoie bien à cette conception énergétique première du travail comme l'élévation verticale d'une force, ce qui est le sens du travail mécanique. J'ai été frappé de voir cette représentation au cœur de la dernière campagne présidentielle avec le slogan de celui qui est devenu notre président de la République, « Travailler plus pour gagner plus », nous disait Nicolas Sarkozy dans une espèce de fausse évidence, comme s'il suffisait d'additionner les quantités de travail pour produire de la valeur. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il dénonçait là la politique menée par la gauche sous Lionel Jospin, autour de l'idée qu'on aurait dévalorisé la valeur travail durant cette époque. Sarkozy allait remettre la France au travail par rapport à cette dévalorisation de la valeur travail dont aurait été responsable la gauche. Alors que, d'une certaine manière, la représentation du travail qui a inspiré la politique des 35 heures n'était guère différente du point de vue qui est le mien ici. Je n'assimile pas les politiques, je m'intéresse simplement aux types de représentation du travail qui sont là derrière. Pourquoi ? Eh bien parce que je peux redéfinir le principe des 35 heures par travailler moins pour travailler plus nombreux. Autrement dit, dans les deux cas, le travail est pris comme une substance que l'on pourrait diviser, sommer, répartir. L'économiste anglaise John Robinson avait autrefois critiqué la théorie classique du capital en suivant son maître Keynes. Elle nous disait dans une formule assez célèbre que le capital n'était pas de la confiture, enfin de la jelly en anglais. Hein. Ce n'était pas de la confiture, c'est-à-dire quelque chose que l'on pourrait ainsi simplement, je dirais, il y avait des... Une machine n'était pas infiniment fongible, ça ne pouvait pas être ainsi une grandeur qu'on pouvait mettre dans des courbes continues. Il en est de même du travail. Il en est même du travail qui n'est pas cette grandeur infiniment fongible que, par exemple, on pourrait répartir sur une plus grande surface si on en accepte une couche moins épaisse, comme la confiture sur une tartine. Autrement dit, cette représentation substantielle du travail comme une espèce de valeur homogène peut conduire à une simplification dont on voit les effets concrets à travers des problèmes qui sont posés de gestion du travail. On a bien vu les questions, c'est le plus intéressant d'ailleurs de ce qui s'est joué autour de la question des 35 heures, comment ça a conduit concrètement, finalement, dans toute série d'entreprises, à redéfinir ce que c'était que le travail, qu'est-ce qu'on fait avec les pauses, est-ce que quand les camionneurs attendent le déchargement devant leur camion, est-ce que c'est dans leur temps de travail ou pas ? On voit bien que, justement, à travers, finalement, dès lors qu'on est dans cette représentation métrique du travail, on voit ressurgir toute une série de questions. Le point sur lequel je veux insister, point qui apparaît tout à fait élémentaire, mais qui, en fait, à regarder de près, pose énormément de problèmes, c'est donc cette idée, toute bête, que le travail n'a de valeur que parce qu'il est productif. Et cette productivité n'est pas une propriété abstraite du travail. Le travail n'est pas productif, par exemple, parce qu'il serait souffrance, selon la conception puritaine du travail de Smith, que Marx a en son temps combattu. Il n'est pas productif non plus simplement parce qu'il serait entre les mains du capital, réduit au rang de marchandise. Il n'est productif que dans la singularité de ses formes, des contextes de sa mise en œuvre. Et c'est bien ici qu'il nous faut revenir au travail vivant. C'est-à-dire penser comment les hommes et les femmes, bien sûr, travaillent dans des contextes propres où se déploient leurs forces, leur intelligence, leur esprit créatif, leur capacité à contourner les obstacles, à inventer des aménagements, petits et grands, par lesquels on parvient à produire biens et services. La difficulté qui est la nôtre aujourd'hui est qu'on a de plus en plus de mal, justement, à se représenter ce travail à mesure que la production s'automatise, que le travail est de plus en plus tertiaire. C'est-à-dire qu'il s'exerce moins directement sur la matière, ni même directement sur les machines qui traitent la matière, et qu'il est de plus en plus fait de manipulations de signes, de formules scripturales, qui participent, à l'issue de médiations complexes, à la modification du monde, à ce processus par lequel l'homme, je cite encore une fois Marx, l'homme, en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, modifie aussi sa propre nature. Pour prendre la mesure du problème, il suffit de regarder les représentations du travail qui figurent sur les ouvrages que l'on donne à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Le paysan dans les champs, l'artisan à son établi, et éventuellement l'ouvrier enchaîné de la célèbre et superbe image des temps modernes de Charlie Chaplin. Comment dire à nos enfants ce qu'est le travail de leurs parents ? Si ce n'est le temps qu'il aurait volé par une contrainte absurde qui les force à quitter la maison et à revenir plus ou moins tard le soir, et dont la contrepartie est une autre abstraction, l'argent par lequel leurs désirs peuvent être plus ou moins assouvis. Si je vous raconte ça, c'est bien parce que dans cette représentation-là, du travail que peut avoir un enfant aujourd'hui, on voit bien le travail réduit au salariat, réduit à cette pure contrainte abstraite, figée dans une représentation temporelle du temps de travail. Ce temps de travail qui se jouerait entre la pointeuse d'entrée et celle de sortie. On m'a raconté à cet égard une belle histoire lors d'un séminaire récent dans une grande entreprise tertiaire que je ne tairai pas, fondée sur une bureaucratie totale et où la pointeuse est absolument centrale. On pointe en entrant, on pointe en sortant. Le système fonctionnant en bonne part pour empêcher les gens de travailler. Alors, il y a quand même quelques poches dans cette organisation où il y a de vraies tâches à accomplir, si je peux dire, parce qu'il y a une bonne partie qui est une pure bureaucratie. Une espèce de... Et dans ces cas-là, les gens trichent, ils vont à la pointeuse pour dire qu'ils sont sortis, puis ils retournent à leur travail. Donc voilà l'effet pervers extraordinaire d'un système où on voit que ce cadre, je dirais, chronométrique de l'organisation du travail est un obstacle même à l'accomplissement du travail. J'ai adoré ces gens qui trichaient en allant discrètement à la pointeuse pour pouvoir revenir tranquillement à leurs occupations. Et donc, ici, travail comme temps sans qualité, qui donc ne fournirait plus d'expérience transmissible. Tel est le danger donc de cette définition du travail réduit au labor, qui nous dispense de chercher les mots pour penser l'expérience du travail moderne, comme si celle-ci était moins riche que celle du travail passé. D'où la nostalgie de ce que j'ai appelé dans mon petit livre un travail perdu. Et c'est là le risque, j'y viens, de la mémorialisation. À l'heure où bien des usines disparaissent, on peut être tenté d'évoquer avec nostalgie le temps où le vrai travail existait, celui qui était marqué par la sueur des producteurs. Une grande fatigue sans doute, une grande exploitation salariale aussi, mais la certitude de produire, de participer à une œuvre collective, dans une confrontation directe avec la matière, maîtrisée au profit des hommes. Donc, excusez-moi de l'abus de ce terme, risque ici encore d'un nouveau fétichisme. Le vrai travail, ce serait celui de la classe ouvrière, défini par le sociologue français Maurice Halvax, par son rapport direct à la matière, qui engagerait sa façon de penser le monde. Le travail est alors envoyé dans un passé mythifié, celui d'un monde né avec la révolution industrielle et qui serait aujourd'hui en voie de disparition. Voie de disparition dans nos pays développés toutefois, car il est clos en ce moment même dans cet atelier du monde par lequel on décrit par exemple la Chine. Il faut donc toujours se méfier quand on parle de mémoire. Le danger de la patrimonialisation, voire de la folklorisation guette. Les démarches en la matière n'échappent pas à ce risque. Et c'est ici, je dirais, un peu ma contribution à la réflexion autour du travail qui est engagé ici et dont Pascal Moidon nous parlera tout à l'heure. Alors j'en viens au présent programme. En conclusion, que j'ai essayé de penser justement pour ouvrir la question de la mémoire, l'expérience du travail, dans d'autres termes, dans des termes qui ne soient pas ceux de la mémorialisation, mais de l'ouverture sur les débats d'aujourd'hui. Penser la mémoire non comme un mythe à construire, mais comme une expérience à mettre en forme, dans un va-et-vient du passé et du présent. Ce qui veut dire penser la diversité du travail et les expériences du travail, hier comme aujourd'hui. La mémoire du travail, autrement dit, ce n'est pas seulement la mémoire de la grande usine industrielle. On y fera référence avec cet archétype même de l'usine dans la France du XXe siècle, celle de Renault-Billancourt. Vous vous souvenez que Renault éternue la France à la grippe. Donc le groupe Atrisse, en collaboration avec Glénat Rowe, si les cheminots veulent bien ne pas la retenir à Montparnasse, viendront nous parler de ça. Mais donc j'étais très heureux que nous puissions avoir cette discussion autour de cette forme archétypale, mais justement pour mieux la confronter avec d'autres formes de travail. On s'est limité au travail ouvrier, mais c'est parce qu'on disposait d'une journée. Il aurait été très intéressant de s'intéresser aussi à la mémoire du travail tertiaire. J'espère que ce sera le cas de la prochaine journée. Mais le travail ouvrier n'est pas seulement industriel. Et inversement, le salarié industriel n'est pas composé que d'ouvriers. Rappelons que les ouvriers sont aujourd'hui minoritaires statistiquement dans le secteur secondaire, selon la classification classique de Colin Clark, qui mériterait d'ailleurs probablement d'être revisitée, parce que je pense que, ou révisée, parce que je pense qu'elle a de plus en plus de mal à rendre compte de la distribution aujourd'hui du salariat Et inversement, il faut rappeler qu'il y a aujourd'hui plus d'ouvriers en France dans le secteur tertiaire que dans le secteur secondaire. Donc, c'est ce qui nous amènera, par exemple, à parler du travail portuaire, celui du port de Marseille avec Michel Lacerra et Yves Schwartz. Alors, lieu intense d'une mémoire ouvrière tout à fait particulière, parfois controversée, faite de luttes particulièrement intenses, mais aussi espace à partir duquel on peut suivre l'activité, les transformations du travail qui ont été extrêmement importantes dans le secteur et celles de l'activité économique au cours de ces 50 dernières années. On parlera aussi des égouts avec Agnès Jean-Jean. Hein, ces égouts se jouent un travail souterrain, déclassé, mais pourtant, comme on le verra, lui aussi porteur de sens et de valeur. Et on reviendra enfin à la région pour rappeler que l'industrialisation ne s'est jamais résumée au modèle de la grande usine urbaine, que l'industrie en France fut et est encore largement dispersée sur le territoire, et notamment, c'est le cas, bien sûr, de l'industrie agroalimentaire, avec ici le cas de l'industrie beurrière des Charentes. Ce récit kaléidoscopique de ces différentes expériences vise à nous arracher à toute nostalgie du travail perdu en échappant aux généralisations abusives. Il s'agit de retrouver le sens de la singularité des travaux, aujourd'hui comme hier, de ce par quoi l'homme continue à se transformer en transformant le monde, selon la formule de Marx. Il ne s'agit pas pour autant de nous désintéresser de la condition sociale du travail, de cette forme sociale que constitue par exemple le salariat, qui domine aujourd'hui les rapports sociaux de travail dans les pays développés, ou des luttes sociales qui se sont nouées autour du travail. L'idée est seulement que ces constructions sociétales ne sont pas le travail lui-même, et qu'on ne peut les penser si on ne pense pas le travail lui-même, ou plutôt les travaux dans leur singularité. Ainsi considéré, recueillir la mémoire du travail, ce n'est pas figer un passé dans un mythe de paradis perdu, c'est penser ces expériences singulières pour ce qu'elles nous disent encore du travail, ici et aujourd'hui. C'est en tout cas dans cet esprit que j'ai conçu ces journées. J'espère y être parvenu, ou en tout cas parvenir à vous faire partager un certain nombre de conclusions que j'ai pu tirer des réflexions que je poursuis depuis quelques décennies maintenant sur le travail, sous toutes ses faces et dans tous ses états. Je vous remercie.
Merci François Vatin pour ces définitions et cette belle introduction à notre journée. On a un temps de questions maintenant ou monsieur voilà, Schwartz va intervenir maintenant puis après une discussion. Voilà. D'accord, monsieur Schwartz, je laisse François vous présenter.
Donc Yves Schwartz, professeur de philosophie à l'Université de Provence, fondateur du département d'ergologie. Donc je suis sûr que le public va demander ce que c'est que l'ergologie et que tu vas sûrement y répondre.
Je ne suis pas là pour ça.
En partie aussi, car je pense que ce n'est pas sans lien avec la discussion que j'ai ouverte ici.
Oui. Merci. Je retrouve mes quelques notes. Bon, donc je voudrais aussi remercier l'espace Mendès France et tout ce qu'il y a autour. J'ai été très impressionné en recevant la documentation que vous nous avez envoyée, mais très sincèrement. Mais c'est pas pour. C'est vraiment parce que l'ampleur des manifestations scientifiques, culturelles, avec cet effet de médiation citoyenne qu'on nous a présenté tout à l'heure, ça m'a paru vraiment très. Enfin, très orienté sur ce but, très efficace. Et puis la qualité des revues que vous avez envoyées. Je ne sais pas si beaucoup de régions font autant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Et je suis donc heureux de pouvoir participer à une de ces manifestations parmi le grand nombre que vous organisez pendant l'année. Bon, alors, donc je crois que je suis chargé d'ouvrir un peu la discussion, peut-être avec 2-3 réflexions. Que je ferai volontiers. Jusqu'à quelle heure, d'ailleurs nous avons une demi-heure, oui.
On va attendre oui. Peut-être les nouvelles de Guénaël Roux.
Oui, donc je pense que la thématique même de mon ami Vatin est tout à fait efficace au sens où il faut, je crois, on a tout intérêt à défétichiser le travail, c'est-à-dire de se défaire d'une seule réflexion, même si elle a sa justification historique et sociale, du travail, un travail sans qualité, et avec la nécessité d'un apprentissage permanent des manières dont se reconstituent dans la vie quotidienne les formes de vie industrieuses qui nous permettent de comprendre notre présent. Hein. Je crois que c'est vraiment l'objectif de cette journée. J'espère qu'on va tous pouvoir y contribuer. Alors, avant d'ouvrir une discussion, moi, j'aurais peut-être le souhait de mentionner trois ou quatre concepts. Ça, c'est peut-être mes formations professionnelles de philosophe, mais qui méritent d'être développés ici. Il ne faut pas développer, mais d'être un objet de perplexité pour que ces discussions sur la mémoire et l'expérience ouvrière soient bien conscientes à la fois des promesses et des difficultés qu'elles ouvrent. Je pense que la question de l'abord de la mémoire, le concept même de mémoire, hein, qui est pris dans le mémoire ouvrière, François a montré les risques de refétichisation de la mémoire, c'est-à-dire qui s'orienterait uniquement vers le passé du travail et un passé un peu mythifié, alors que nous vivons aujourd'hui des formes d'activité industrieuse où ces formes anciennes ne sont plus dominantes, même si elles restent importantes et pour de bonnes raisons. Mais je dirais simplement que la question de la mémoire en elle-même est un problème compliqué, parce que on va recueillir de la mémoire, et je crois qu'on a raison. En même temps, certains, et notamment dans les milieux scientifiques, n'ont cesse d'attirer l'attention sur le risque de la mémoire, parce que on dira la mémoire est toujours sélective. Et donc, est-ce qu'on peut faire confiance à la mémoire, au recueil, et notamment à la mémoire orale? Alors, je pense que c'est une bonne question. La mémoire est toujours active, hein, c'est une faculté active dans notre psychisme. Et je dirais que il y a la mémoire, il y a l'oubli, et heureusement que l'on oublie. Hein. Donc c'est sûr que la mémoire est une fonction active de notre organisation du système nerveux, psychique et historique de notre être. Donc elle sélectionne, c'est vrai, et donc elle ne peut pas être accueillie avec une confiance totale. Mais en même temps, je crois qu'il faut se garder d'être unilatéral sur la question, parce que finalement, les historiens ou les chercheurs, eux aussi, lorsqu'ils font des choix, ils font des sélections, dans leurs objets d'études, dans leurs intérêts d'études, et dans ce qu'ils considèrent comme plus ou moins compliqué. Donc la dimension d'activité de la mémoire, elle est unanimement partagée, je dirais, en nous comme êtres humains. Donc de ce point de vue-là, bien sûr, il ne faut pas être trop confiant et trop naïf vis-à-vis de toutes les formes de mémoire qu'on va pouvoir recueillir et que recueille de manière très positive l'inventaire. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas du tout se laisser non plus abuser par une sorte de mémoire scientifique qui serait le privilège de certains qui seraient les chercheurs. Donc tout ce que je pourrais dire d'ailleurs sur ces concepts irait dans le même sens. Je vois mal comment on pourrait échapper sur les questions d'un travail défétichisé à des formes de coopération compliquées mais indispensables entre différents partenaires, et en l'occurrence ici ceux qui portent en première personne la mémoire du travail et ceux qui ont des éléments intellectuels acquis dans leur formation scientifique pour mettre en ordre et vérifier ce qui est contestable ou pas dans les recueils de mémoire directs. Donc je pense que là, par rapport à cette question du travail, on n'échappe pas à des formes qui sont encore minoritaires de coopération entre les différents partenaires. Je pense que c'est ce qui est mis en œuvre d'ailleurs aujourd'hui avec cette question de l'inventaire. Bon, c'est, donc il y a autour de la mémoire, on pourra revenir dans la discussion si vous le souhaitez, mais je pense qu'il y a déjà y a une véritable difficulté. Le deuxième concept qui intervient, c'est le concept d'expérience. Alors l'expérience, là aussi, on pourrait dire beaucoup de choses, parce que autant on sait ce que c'est qu'une expérimentation au sens d'une expérimentation scientifique, une expérimentation scientifique ou un protocole a pour objectif pour que ce qui pourra être tiré comme conclusion de ce qui se passe dans le cadre d'une expérimentation, en laboratoire par exemple, doit neutraliser toutes les conditions, disons, historiques du protocole. C'est-à-dire que si on peut dire que dans le résultat ou dans une courbe tirée d'un protocole expérimental, il y a des biais qui sont liés à la façon, par exemple, au fait que le milieu n'a pas neutralisé un certain nombre d'éléments, pour dire de température, de pression, pour prendre les plus simples, ou même de mode opératoire, l'expérience ne vaut rien et la courbe n'est pas valable. Donc il faut, en quelque sorte, aseptiser et neutraliser complètement le protocole pour qu'il ait valeur. Il est clair qu'on n'a absolument pas du tout cette condition dès lors qu'on va parler de l'expérience ouvrière. L'expérience, je dirais pour être très court, mais au fond, on ne sait pas très bien quel est l'être qui fait expérience. Il faut faire une expérience parce que la vie vous demande d'accomplir des tâches, et surtout dans le travail où il y a des normes très précises. Donc, quelles que soient les difficultés à parler d'un être unique, clair, non, il faut quand même que chacun tranche et donc se mette en œuvre dans les contraintes ou les possibilités que lui demande la vie au travail. Donc il y a bien un être qui fait expérience, mais cet être-là, au fond, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit, on n'en sait rien, parce qu'on ne se connaît jamais vraiment nous-mêmes. Donc, alors que dans le protocole ou dans les, comment dire, en mathématiques, il y a des expériences aux limites qui sont très connues, là, dans l'expérience qu'on fait de la vie et notamment du travail, on ne sait pas très bien quel est l'être qui fait expérience, et notamment dans notre être, est-ce que nous sommes à la fois corps, on a parlé tout à l'heure des gestes du corps, corps et aussi âme, intelligence, valeur, c'est tout ça à la fois dans une hiérarchie que nous ne dominons pas très bien. Et par conséquent, on ne sait pas très bien, au fond, quand on dans l'expérience du travail, jusqu'où peut aller cette expérience du travail, à la mesure où on ne sait pas quels sont les points de départ et on ne saura jamais, on ne sait pas très bien jusqu'où elle peut nous porter, cette expérience du travail. Et même constat, je dirais que dans le cas de la mémoire, cette expérience-là, on peut, comme elle est très compliquée, comme elle reste toujours en partie obscure, on peut, comme disait un médecin qui avait beaucoup travaillé en Italie avec les ouvriers de la Fiat, hein, on était en pleine période taylorienne, c'était Ivar Odon à Turin, dans les années 70, on peut la mortifier ou l'exalter, cette expérience. C'est-à-dire qu'on peut, considérer que comme elle est trop confuse, comme les mémoires est quelque chose de trop douteux, on n'en tient pas compte, et finalement on considère qu'elle est un obstacle à la réalité des choses, aussi bien d'ailleurs à la réalité scientifique qu'à la réalité managériale. Donc on l'ignore, ou bien au contraire, on se dit qu'il faut lui donner les possibilités de se mettre en visibilité, et à ce moment-là, en effet, cette espèce d'indéfini de l'être en expérience se déploie effectivement, et on rencontre des richesses formidables, et c'est ce que je pense est probablement le travail même de tout inventaire sur l'expérience. Donc là encore, je crois qu'il faut travailler en permanence sur des formes de coopération qui visent plus à exalter, même si on ne veut pas refétiger l'expérience, qu'à la mortifier. Et d'ailleurs, je dirais que aussitôt se pose un problème qui n'est pas inclus dans le titre, mais c'est l'inventaire, le travail sur la mémoire ouvrière, c'est une mise en langage. Et le rapport de l'expérience et de la mémoire au langage est une question très compliquée aussi, parce que comme l'expérience du travail, c'est quelque chose qui, justement, traverse fondamentalement tout l'être au travail, hein. Encore une fois, qu'il soit corps, âme, dans ce corps biologique, mais qui est mis en histoire par notre vie, jusqu'à les valeurs individuelles et collectives qui sont à l'œuvre dans tous les choix qu'il fait dans les activités de travail, mettre tout ça en mots est compliqué. surtout dans des lieux où on va à valeur, je dirais, un langage autorisé, qui est celui de gens qui ont de la culture, entre guillemets, et qui en même temps prescrivent, procéduralisent le bon travail à faire. Et par conséquent, dans un univers qui est toujours singulier, comme l'a dit très justement François et que je partage entièrement, où les concepts existants ne sont jamais exactement ajustés à la singularité de la situation, passer à la mise en mots est toujours une grande difficulté. Et autant les travailleurs, souvent, on pourra le voir, discutent entre eux dans leur langage avec leurs inventions langagières, autant quand il s'agit de passer à un recueil, un inventaire, là aussi, s'il n'y a pas des formes d'accueil, de bienveillance, je dirais, d'hospitalité de ceux qui ont l'habitude d'écrire et de conceptualiser à ces formes compliquées d'expérience, eh bien, ça ne se fera pas. Donc, je dirais que, là encore, ces questions de mémoire et d'expérience ouvrière supposent des formes de collaboration originales et qui n'ont pas toujours lieu. Et enfin, je dirais qu'il y a un quatrième mot qui est en jeu dans le titre même de cette journée, et Vatin en a fort bien parlé, c'est travail. Au fond, qu'est-ce que c'est que le travail, hein ? Et il y a aussi, en effet, une fétichisation qui nous est quasiment spontanée. C'est, comme on l'a dit, travail, on dira d'abord, bah oui, c'est le moment où je pars de chez moi pour entrer dans un lieu où j'ai des contraintes, éventuellement où je pointe. Et au fond, c'est ça, le travail. Et bon, alors, de plus en plus, aujourd'hui, c'est complètement dépassé, hein. La contrainte temporelle, aujourd'hui, avec notamment les nouveaux moyens de communication, les réseaux, est en train peu à peu de s'effriter complètement, ce qui d'ailleurs pose des problèmes de réglementation sociale compliqués. Mais indépendamment de ça, le travail, je crois que François a dit très justement que Marx avait, je dirais, immédiatement noté les deux possibilités. L'une qui est la mise en œuvre, d'ailleurs très, très énigmatique, de notre activité dans le champ, de produire de la vie sociale, hein, indépendamment des formes sociales où ça s'exerce, et puis l'autre qui est le travail productif au sens plus étroit, qui est produire de la plus-value, hein, au sens de Marx. Alors là, c'est clair que dans le monde où nous vivons, les deux éléments s'articulent, mais on a quand même une très forte tendance à laisser en chantier le premier. Et si d'ailleurs on s'est appelé département d'ergologie, c'est au sens de l'activité humaine, c'est-à-dire éviter de se laisser uniquement piéger par une forme très actuelle du travail, même si elle est essentielle et stratégique, et d'envisager toutes les formes d'activité humaine. Et de ce point de vue-là, si on pense cette énigme du travail sur la planète, il y a de même que la forme ouvrière et minoritaire aujourd'hui, comme François Vatin l'a rappelé, la forme salariale avec contrat de travail, etc., sur la planète, dans la production de la vie sociale, des biens et des services, elle est minoritaire. Donc, il faut éviter absolument de se laisser piéger aussi par ce mot « travail ». Voilà, c'était pour dire que, dans le thème même de cette journée d'études, qui est très riche et qui nous, je crois, passionne tous beaucoup, les mots « mémoire », les mots « expérience », mise en langage de l'expérience et travail sont tous, quelque part, des mots un peu pièges, et il faut se laisser éviter de se faire piéger pour donner toute son ampleur à cette réflexion. Voilà, alors cela dit, je crois que vous avez vous-même probablement beaucoup de choses à dire, et donc nous ouvrons la discussion.
Merci, monsieur. C'est une journée de discussion. Hein, là. Vous n'avez pas que les intervenants qui vont parler. Monsieur, j'arrive, hein, je vais vous donner le micro. Vous vous présentez, s'il vous plaît.
Oui, monsieur Thomas, moi, j'ai plus de problème d'horaire parce que je suis retraité. Ça arrange bien les choses. J'ai deux questions. Une première pour monsieur Vatin, qui concerne la maîtrise de l'outil et de la matière dans ce que vous avez indiqué. En fait, on s'aperçoit qu'on a une perte de dimension professionnelle, en fait, sur le plan des ouvriers de base. Et puis, une pour M. Schwartz, donc, là, qui concerne plus particulièrement... Attendez... L'expérience, la notion d'expérience, j'y vois deux deux éléments. L'une qui est une expérience expliquée, c'est-à-dire une expérience que l'on va ensuite choisir comme solution, et puis une expérience qui est subie et qui sera en fait une solution qui deviendra une habitude.
Voilà. Comment vous pensez, est-ce qu'on recueille d'abord un certain nombre de questions peut-être?
Non, je préfère que vous... L'habitude veut qu'on réponde tout de suite. D'accord. Enfin, si vous voulez changer d'habitude, monsieur, moi, je ne vois aucun inconvénient.
Non, mais bon.
Ça ne m'étonnerait pas, quand même.
On a justement, ce sont les habitudes. Voilà. Donc, je suis prise à mon propre piège.
Sur la perte de professionnalité, oui. Et en même temps, émergence de nouvelles professionnalités. Je veux dire, dans une étude que Ifarts connaît bien aussi, hein, qui avait été menée... sous ma direction par Alexandra Bidel, s'était intéressé aux personnes chargées du contrôle, de la surveillance des flux téléphoniques. Donc des gens dans une salle de contrôle passant leur temps à regarder des courbes qui apparaissaient sur leurs écrans et donner du sens à ces courbes pour savoir comment intervenir sur le réseau pour éviter qu'il y ait des pannes de réseau. Bon. Donc, c'était à France Télécom. Elle avait d'ailleurs travaillé auparavant sur les lignards, hein, ces ouvriers qui tiraient les lignes et qui disparaissaient complètement. Donc là, on était dans cette figure de la perte de cette professionnalité-là. Et puis, on en voit émerger une autre. Comment on donne du sens, comment on arrive à une maîtrise à travers, effectivement, une démarche qui apparaît très médiatisée par rapport... Effectivement, au final, il y a des flux électriques qui circulent. On les maîtrise à travers des médiations complexes, mais tout ceci relève d'une forme de professionnalité. Et tout le problème est effectivement de ne pas réduire cette professionnalité à ce qui nous apparaît naturel et qui ne l'est pas non plus au final, car une forme de naturalité dans la professionnalité de l'usine du début du XXe siècle, si on se situe par rapport au temps des tailleurs d'outils en pierre, cela apparaît comme un rapport totalement abstrait à la production. Voilà. Donc, je crois qu'il faut effectivement distinguer effectivement les deux niveaux, effectivement le degré de médiatisation croissante de l'activité humaine et la question de la professionnalité qui est toujours de l'ordre d'une maîtrise. Regardez comment les gens parlent de leur ordinateur, de la façon dont ils le tiennent en main, dont ils le prennent. Hein, je ne pense pas que de ce point de vue-là, la question soit fondamentalement différente.
Oui, alors sur la distinction des deux termes d'expérience, elle me paraît en effet tout à fait intéressante et justement... ça me permet peut-être de proposer une seconde distinction. Tout à l'heure, je proposais entre expérimentation et expérience. Et là, j'aurais tendance à distinguer l'expérience du travail et le travail comme expérience. Ce que j'appelle l'expérience du travail, c'est un peu ce que vous appelez l'expérience subie. C'est-à-dire que et ça fait la différence entre le fait d'être, par exemple, dans la même entreprise ou le même service pendant un temps important. À mon avis, ce n'est pas ça qui donne sa valeur à l'expérience et qui permet justement aujourd'hui de faire une journée autour de l'expérience du travail. Donc, pas quelque chose comme subi, mais quelque chose, au contraire, justement, d'actif. Et c'est ce que j'appelle le travail comme expérience. Et là, ce que je veux dire, la différence, c'est qu'il me semble que l'expérience du travail comme un temps purement de... je dirais passif, d'exécution, d'application de normes de temps subi, me paraît finalement impossible. Et plus ou moins, avec divers degrés, je crois que le travail est toujours, à quelques degrés, une expérience. Et en ce sens-là, quand je dis comme expérience, ça veut dire qu'on a des choix à faire, en permanence, petit ou plus grand, conscient ou inconscient, enfoui dans le corps ou au contraire choisi, ça dépend des situations de travail que l'on vit. Mais ça, c'est un peu mon propre langage, mais je pense que Vatin, quand il nous renvoie à la concrétude du travail, il partage aussi cette idée, c'est qu'on est en permanence conduit à opérer des choix qui peuvent être infinitésimaux entre des normes qui nous précèdent quand on arrive sur un lieu de travail, le modèle étant justement les normes tayloriennes évoquées, où on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement que d'appliquer les gestes dans les microsecondes indiquées. Et puis il y a toutes autres sortes de normes antécédentes, collectives, gestion, prévention, sécurité. Bon. Et puis le fait que de toute façon c'est impossible, ce n'est pas vivable au jour le jour d'être le pur exécutant de ces normes. Et donc il faut toujours plus ou moins réajuster, retravailler ces normes-là. Et l'expérience, je pense, c'est l'accumulation de ces, moi j'appelle ça des renormalisations, appelez ça comme vous voulez, mais de ces choix permanents qui rythment, qui scandent votre vie de travail et qui fait que vous avez vraiment une expérience. Et qui fait que quand quelqu'un jeune arrive dans ce milieu, ben justement, la mémoire de tous ces choix et ces renormalisations que vous avez à faire est quelque chose que vous avez intérêt à transmettre parce que ça ne s'invente pas et ça s'est créé, produit dans le champ même de votre activité professionnelle. C'est là ce que j'appelle le travail comme expérience.
Merci Anne. Jacqui Deniol, Institut Atlantique d'aménagement du territoire Poitou-Charentes. Il me semble aussi qu'une question, enfin peut-être allez-vous l'aborder ou peut-être ultérieurement, mais les caractéristiques de la région Poitou-Charentes voilà, influent certainement beaucoup aussi sur le problème de la mémoire, du travail. Je voudrais juste faire allusion à des travaux qu'avait fait à un moment donné un sociologue qui s'appelle Pierre Maclouf, qui avait fait un travail assez intéressant, notamment sur le concept, vous savez, ça a fait florès à une époque, Chavannes en était un grand défenseur, des usines à la campagne, et qui montrait tout à fait qu'au fond, le monde ouvrier, évidemment, travaillait, mais en même temps, était très attaché aussi à la terre, donc il y avait toujours des lopins de terre, il y avait toujours, en plus du travail, une exploitation entre guillemets de type agricole et rural qui renvoyait au fond à la caractéristique de cette région, parce que quand on regarde encore la région aujourd'hui, je crois, on n'a pas de grosses entreprises, on est quand même dans une région à dominante assez agricole, enfin, où les produits de transformation d'ailleurs ne sont pas forcément dans cette région, se font plutôt à l'extérieur. Donc on a des caractéristiques, je vais assez vite, et là c'est un peu pragmatique mon analyse, mais il me semble que là il y a un travail peut-être à mettre en relation, en corrélation au contexte. Et effectivement, dans l'aspect de mémoire ouvrière, il y a un retour à la dignité. Bon, je ne vais pas faire allusion à mon cas personnel, mais mon père est ouvrier spécialisé, ma mère femme de ménage. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de mémoire sur les femmes de ménage, par exemple. Voilà. Et voilà. Et donc là, il y a un travail, me semble-t-il, à corréler avec la caractéristique de la région, parce qu'au fond, ces emplois, c'était lié à la région et aux emplois qu'ils pouvaient trouver.
J'ai insisté sur ce point-là, effectivement, mais je pense que bon, c'est assurément caractéristique de la région, mais c'est caractéristique de bien des régions françaises. Hein. Si on faisait l'histoire de la carte des implantations ouvrières, on s'apercevrait qu'on a une histoire industrielle française qui est effectivement très, très dispersée. Et ce que vous dites sur les cultures ouvrières dans leur relation avec un environnement rural, on pourrait le retrouver dans bien des régions. Donc, entièrement d'accord avec vous, mais justement, j'insistais là-dessus parce que cela faisait partie, justement, de la critique d'une certaine représentation, disons, qui focaliserait sur Billancourt, dont nous parlerons finalement cet après-midi, hein, une bonne partie de l'histoire ouvrière française, c'est celle que vous décrivez, en Poitou, mais ailleurs aussi.
Oui, la question des ouvriers paysans est une vieille question d'histoire du travail.
Hein. Oui, d'ailleurs, les ouvriers sont maintenant majoritairement à la campagne. C'est quand même assez surprenant par rapport à l'image qu'on en a. Moi, j'avais envie juste de revenir sur trois petits points pour préciser. François a fait une distinction que moi j'aimerais bien qu'il précise. J'ai eu l'impression qu'il y avait une distinction un peu entre le vrai travail et un travail qui ne serait pas vrai parce qu'il serait la bureaucratie, parce qu'il ne serait pas productif. Bon voilà, je ne sais pas, moi c'était quelque chose dont je vois bien qu'il y a des frontières, il y a des perméabilités entre les frontières, mais je n'arrive pas bien à comprendre comment on peut faire la distinction entre le vrai travail qui apporte de la valeur et puis celui qui n'en apporterait pas. J'ai une autre question aussi plutôt adressée à François Vatin, sur la question du sens. Beaucoup insisté sur la question du sens, et je pense que c'est une question importante notamment lorsqu'on travaille sur les mémoires du travail. Mais en même temps, c'était appliqué, me semble-t-il, à un travail contemporain qui n'aurait pas de sens ou dont on trouverait difficilement le sens. Je me disais, le boulot de l'OS, c'était le rien. On a eu du mal aussi à lui trouver du sens, quoi. Hein. Et puis, sans doute, toute une série d'activités où c'est historiquement qu'on construit le sens. Et puis, la troisième question, elle était plutôt là à Yves Schwartz. Je suis frappé, et je ne suis pas trop d'accord, en tout cas, je suis étonné, de l'expérience au singulier. Cette notion d'expérience qui est... moi, il me semble que l'expérience, elle est toujours au pluriel. En tout cas, elle est très souvent au pluriel. C'est un ensemble de pratiques quotidiennes, de concrétude. Et c'est ça, les expériences. Et je suis toujours frappé, je me demande bien pourquoi, en français, on utilise l'expérience au singulier, notamment les acquis de l'expérience, la validation des acquis, etc. Je me demande bien pourquoi. C'était une question que je vous pose.
Oui, alors, sur vrai et faux travail, je n'essaye pas de faire de trier le bon grain de l'ivraie dans les activités laborieuses. J'évoque la distinction entre le travail comme acte productif qui est pensé à travers cette projection dans une production de quelque nature ce soit, et une définition fétichisée du travail comme étant le temps passé dans les lieux réputés de travail pendant le temps réputé de travail. Et c'est pour ça que je racontais cette histoire paradoxale d'une entreprise que je n'ai pas le droit de citer, où, de fait, pour toute une série de raisons, il y avait des gens qui n'avaient strictement rien à faire. Protégés par une situation statutaire, il y avait des gens qui n'avaient strictement rien à faire. Mais par contre, la nécessité, donc c'est une espèce de modèle emblématique, caricatural de ce que je veux désigner, une nécessité de respecter strictement toute une série de règles et d'apparences, même quand en fait on ne leur confiait aucune mission. Mais il y avait quand même dans ce lieu des espaces où il y avait de vrais enjeux. Et ce qui était frappant, c'était de voir que là, ces gens-là étaient forcés, pour assumer, je dirais, leur mission projetée dans cette efficacité productive, étaient forcés, je dirais, même de truquer cette norme extrêmement rigide à travers ce récit que je trouvais drôle, hein, c'est pour ça que je voulais citer, qui consiste à aller pointer sa sortie pour retourner au travail. Voilà. Donc c'était simplement ça. Après, c'est pas d'arriver à dire qu'il y aurait des activités qui seraient du vrai travail et d'autres qui ne le seraient pas. Il s'agit de revenir à la question du travail dans cette projection productive par rapport simplement à une définition formelle qui serait la contrainte salariale, être dans le lieu de travail, aux heures réputées de travail, ce qui est de moins en moins tenable pour penser l'activité productive aujourd'hui. Télétravail, le cadre qui rentre chez lui, et qui prend son ordinateur, son email, etc. Je ne développe pas ces questions-là, mais je crois que c'est quand même au cœur de bien des enjeux, comme le disait Schwartz tout à l'heure, de difficultés croissantes de certaines normes collectives, du type de relations professionnelles, des normes socio-juridiques, par le fait que le temps et l'espace de travail sont de moins en moins faciles à isoler. Pour le reste, sur le sens, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est bien ce que je veux dire en évoquant les dangers de la mémorialisation, c'est-à-dire c'était mieux avant, c'est-à-dire le sens, on le trouve toujours après. Hein? Cette ambivalence, elle est effectivement permanente, c'est-à-dire qu'on a effectivement, au départ, définit l'emploi d'OS comme le travail sans qualité par excellence. Et il a fallu effectivement le penser et s'apercevoir que ce n'était jamais le cas, comme le rappelait Yves Schwartz tout à l'heure. Donc, oui, on a bien évidemment toujours cette tendance à penser ce qui advient comme une espèce de rationalité abstraite d'où le sens aurait disparu, et ce n'est jamais le cas. Donc je n'ai pas voulu dire que le sens aurait disparu des activités de travail. Je mets justement en cause cette idée d'aller chercher en permanence le sens dans le passé, hein, dans cette nostalgie. Et je pointais ça parce que c'est bien évidemment un risque de ce travail sur la mémoire que de chercher toujours le sens dans le passé.
Il y a peut-être un petit problème aussi, c'est que la nostalgie fait la force. C'est-à-dire qu'on parle, par exemple, on pense au travail de la manufacture à Châtellerault. Bien entendu, les anciens travailleurs, quand leur usine n'existe plus, ils se retrouvent et la nostalgie fait leur force. Donc, c'est un des problèmes, justement, du fait qu'une usine s'arrête. C'est, ils se retrouvent dispersés et ils créent, justement, une mémoire qui est une mémoire nostalgique. Donc, il y a aussi un effet sans doute psychologique ou de désillusion, ou même qui est tout à fait humain. Alors, voilà. C'est pas tout ce que je dis à François.
Non, mais que la nostalgie est une fonction poétique, je n'en doute pas. Hein. Je pense que de la mettre au cœur d'un débat comme celui d'aujourd'hui serait une mauvaise façon de prendre le problème. Mais ce n'est pas pour dénuer là aussi toute valeur à la nostalgie.
Donc justement, je voulais te poser la question qu'on s'était posée et que tu vas exclure quand on a voulu préparer cette journée. On a parlé de la souffrance au travail, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, etc. Et tu as dit non, on ne parlera pas de ce problème-là. Donc en termes généraux, hein, donc je voudrais que tu expliques pourquoi. Je voudrais que tu nous expliques là, parce que je pense qu'il y aura des questions sur ce sujet, ou on s'attend peut-être à des questions sur ce sujet, ce qui sera tout à fait légitime. Donc je voulais que tu expliques pourquoi on l'a exclu. Et maintenant, moi, je l'ai mieux compris après en avoir parlé avec toi.
Mais il ne s'agit pas de l'exclure.
Non, mais de pas.
Ici, oui. Ici et maintenant, ça fait partie aussi de l'expérience du travail, hein, que le travail peut être souffrance. Il s'agit effectivement de ne pas thématiser le travail par la souffrance. Hein. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, justement, en parlant de la façon dont Marx le premier critique Adam Smith là-dessus, hein, dans cette définition puritaine du travail, le travail qui pourrait être défini par la souffrance. Ce qui est une dimension, effectivement, je dirais, d'une certaine tradition culturelle qui porte sur nos représentations du travail, mais qui, là aussi, est mauvaise conseillère.
Oui, je ne pense pas que l'homme soit né directement pour travailler. C'est une conception personnelle, mais je pense que c'est valable pour pas mal de gens. Par contre, le travail correspond toujours à un besoin. Il y a un besoin qui doit être émis soit sur le plan du confort, de l'aspect culturel, de la survie, et qui entraîne bien entendu des obligations à chaque fois. Donc la notion de besoin, il faut l'identifier, et je pense que là c'est peut-être la problématique qui se pose actuellement, parce que ces besoins-là ont changé depuis quelques années.
Yves, tu voulais...
C'est là que j'avais une réponse.
Oui, puis on reviendra en arrière.
Oui, non, puisque monsieur, vous m'aviez questionné sur expérience au singulier, expérience au pluriel, effectivement. Alors, je pense ça aussi, c'est tout à fait légitime. En un sens, je crois que c'est un constat que je reprends, notamment, par exemple, de tous mes amis ergonomes, qui travaillent sur les situations très concrètes de travail, je pense qu'on peut dire que toute situation de travail est toujours en partie singulière. Et par conséquent, les expériences qu'on en fait sont toujours en partie resingularisées. Donc de ce point de vue-là, vous avez raison d'insister peut-être sur le pluriel. On n'arrête pas de faire des expériences, même quand on reste dans le même lieu, dans le même service, dans la même entreprise un certain temps, ça change sans arrêt. A fortiori, quand on change de service, d'entreprise, voire de métier. Donc le pluriel, oui. Mais ce que je pense, c'est que si ce que je disais tout à l'heure est à quelque apparence de vérité, c'est que dans toute situation de travail, donc il faut il y a un choix à faire entre ce que j'appelle des normes antécédentes, des procédures, du travail prescrit qui nous entoure à tous les niveaux. Et puis la nécessité d'accomplir une tâche qui ne pourra jamais être la pure reproduction de cet ensemble de normes. Ça, ce que je dois faire, ce que j'appelle renormalisation, mais ce choix que je dois faire, là, il requiert l'ensemble de mon être. Je parle d'usage de soi, parce que vous devez le faire avec tout ce que vous êtes devenu dans l'histoire, avec vos virtuosités corporelles, gestuelles, vos habitudes, ce dont vous vous souvenez, ce que vous avez oublié, et ce que vous valorisez dans votre univers proche et lointain. Donc, c'est l'ensemble de votre être qui est mobilisé sur ce choix, même si vous n'en êtes pas conscient. Et de ce point de vue-là, le singulier a valeur, parce que c'est cet être-là qui fait expérience et qui est en permanence retravaillé par l'ensemble des choix qu'il fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez la façon dont, en effet, nous sommes confrontés à une pluralité de situations, donc on pourrait dire d'expériences au pluriel, mais que nous devons les traiter avec ce que nous sommes devenus comme être qui est toujours un peu obscur à nous-mêmes et qui, lui, doit être un. Parce qu'au moment, s'il y a une espèce de clivage ou d'impossibilité de faire d'unifier en nous ce que nous sommes, ce que nous souhaitons, ce que nous valorisons, là, ça devient dramatique et on trouverait certainement à ce moment-là la question de la souffrance au travail. Vous voyez. Mais l'incapacité de faire de rendre cohérent une pluralité d'expériences, ça, je crois que c'est un élément de souffrance.
Un simple petit mot à propos de votre formule, savoir si l'homme est né pour travailler ou pas. Dit comme ça, ce degré de généralité, je pense que c'est un propos qui nous renvoie effectivement à une certaine tradition religieuse européenne. Effectivement, au paradis terrestre, on ne travaillait pas, et puis Adam a croqué un bout de pomme, vous savez, et puis voilà, on l'a envoyé sur la dure terre où il travaillera la sueur de son front. Comment dire, donc dans cet univers réel dans lequel nous avons quitté le paradis terrestre, on nous a fixé cette mission, si je peux dire, mais c'est simplement, effectivement, le mode, je veux dire, de relation avec nos semblables et notre environnement qui sont, de ce point de vue-là, constitutifs de notre existence. Le problème est de ne pas identifier cela à une forme sociale spécifique, c'est-à-dire il y a un grand débat classique sur la notion de travail, une définition historicisée ou une définition anthropologique. La définition historicisée ramène le travail au salariat. Donc si on ramène effectivement le travail au salariat, on peut montrer que c'est une forme historiquement datée, extrêmement récente et qui n'est absolument pas générale comme l'a rappelé Richard tout à l'heure, l'espace mondial aujourd'hui même. Je pense personnellement que c'est une erreur de ramener le travail au salariat, car ça empêche de penser et le travail et le salariat. Donc si on veut pouvoir penser le salariat comme forme spécifique, il ne faut pas l'identifier au travail. Et ça a la conséquence suivante, c'est que, y compris dans une société salariale, le travail n'est pas réductible au salariat. C'est au cœur, effectivement, de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, penser le travail, c'est le penser aussi au-delà du salariat, dans ses formes concrètes, ce qui nous ramène à la discussion de tout à l'heure. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai répondu là-dessus. Alors, je propose Anne, sur le besoin. Ben, sur le besoin, oui, sans doute. Là aussi, la question est complexe. Il s'agit effectivement, on modifie l'état du monde dans un sens plus favorable à nos besoins individuels et collectifs. C'est là que la question peut commencer à se poser, c'est-à-dire effectivement, est-ce que cette modification se fait effectivement, est-ce qu'on passe d'un état à un état plus favorable, ou bien ça, c'est effectivement les questions posées, je dirais, par les décroissantistes, consistant à dire, ben, finalement, peut-être qu'on modifie l'état du monde dans un sens qui est moins favorable à nos besoins. Bon, ça serait l'objet d'une autre journée que d'en discuter. Nous continuerons à partir de l'hypothèse effectivement, ça remplit un certain nombre de besoins. Je voudrais simplement, de ce point de vue-là, faire une remarque de mon expérience de sociologue. Je travaille aussi pas mal sur l'Afrique de l'Ouest. Ce type d'expérience conduit aussi à, comment dirais-je, à prendre une certaine distance par rapport à ce que j'appellerais des discours de bien nourris, hein, qu'on a tendance à trouver dans nos sociétés. Voilà. Je propose qu'on fasse une petite pause, après quoi on va donc intervertir l'ordre du programme. Nous allons commencer par les dockers de la région marseillaise avec Michel Nassera et Schwarz, de façon à laisser Gwena Elro nous rejoindre.
Arrivé vers midi.
Hein, elle interviendra cet après-midi, on va intervertir pour parler de Billancourt. Merci. À vous.